9h28. Deux invités ce matin pour parler d'un film qui va être présenté au rendez-vous du cinéma québécois le 28 février, qui sera aussi disponible sur Netflix le 27 mars. Puis il y a une sortie en salle également qui est prévue, c'est pas rien. Ça s'appelle « Jusqu'au déclin ». Patrice Laliberté, le réalisateur, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et Réal Bossé, bonjour.
Salut.
D'abord, il y a, comme on dit dans la vie, le timing est très bon, là, parce que vous avez d'un côté un virus, vous avez des marchandises qui sont bloquées, et votre film porte sur l'univers des survivalistes. Comment c'est arrivé cette idée-là, ce thème-là? Pourquoi vous avez choisi ça pour en faire un film?
Moi, ça va faire à peu près 4 ans que je me suis plongé dans Facebook et dans ces groupes de mouvances-là. Je travaillais sur un autre projet. Puis à un moment donné, je me suis mis à vraiment approfondir. Puis là, je sentais qu'il y avait un sujet vraiment intéressant. Puis c'est avant que Trump se fasse élire. On était à l'ère d'Obama à l'époque. Puis je sentais qu'il y avait comme une mouvance, une perte de contrôle, une perte, disons, de confiance des citoyens. Puis qu'il y avait des gens qui voulaient se rassembler. Puis que Facebook, en fait, permettait ça. Donc on s'est retrouvé avec un paquet de gens qui pensaient un peu la même chose. Donc ils se sont un peu rassemblés. Puis là, moi, ça m'a vraiment inspiré. Puis de là, l'histoire est apparue et on a écrit le film après ça.
Les survivalistes, vous les voyez comment? Si vous aviez à les définir, je comprends qu'il n'y a pas une catégorie, là, il y en a plusieurs, mais quand même.
Les survivalistes, c'est, pour moi, c'est deux grands pôles. Là. Il y a les autonomistes qui sont, pour moi, c'est des gens qui vont s'intéresser à la permaculture, à comment créer, comment être autonome électriquement, ben pas électriquement, mais de manière électrique ou de manière alimentaire. Puis, ben ces gens-là, ils créent un royaume. Puis moi, c'est la deuxième phase qui, moi, des fois, me dérange un peu, où est-ce qu'on se dit, ben là, je vais me protéger pour sauver ces ressources-là et je vais me défendre et je vais apprendre à me défendre. Et c'est là que moi, je trouve que je me dissocie un peu de ce mouvement-là.
Réal, t'incarnes oui. Le mentor, celui qui, par les réseaux sociaux, par le web, mm-hmm. Entre dans les vies de ces gens-là, puis qui s'est bâti un véritable domaine. C'est incroyable. Là.
Oui, en fait, ça me ramène à ma jeunesse, moi, cette affaire-là. Chez nous, on était autonome. On avait une ferme, donc on était vraiment autonome. On pouvait, on était affecté par pas grand-chose, parce qu'on fournissait nos légumes, on fournissait, à la limite, certains fruits. Et de la viande en masse parce qu'on avait cette ferme-là. Donc, pour moi, ça va de soi d'être... C'est une bonne chose de savoir des choses, d'avoir certains skills, certaines habilités. Maintenant, comme dit Patrice, il y a une version... À partir du moment où le survivalisme est là pour dire, bon, je veux être autonome, je peux prendre soin de moi, je veux prendre soin de ma gang, ça tient toujours. Jusqu'à ce que, il va falloir qu'on... Il y a un jour, il y aura un tipping point. Il y aura quelque chose si jamais ça se déclenche.
Mais on l'attend, là. C'est-à-dire que quand je dis timing, pourrait, là, déjà au début du film, le fameux virus de la grippe à l'époque, le chaos social qui va s'installer, mm-hmm. les gouvernements dont on ne croit plus vraiment la bonne foi. Fait que tu as une série d'éléments comme ça qui font que tu te prépares. Des fois, je regardais le film en me disant... Ils ont l'air d'espérer le chaos. Tu comprends? Tu peux pas avoir fait ça pour rien.
C'est ça. T'es équipé, tu t'es entraîné, tu as compris les affaires, tu as appris comment. Et là, tout d'un coup, tu peux te servir de rien parce qu'il se passe rien.
Exactement.
Et là, c'est un peu décevant. T'sais. Mais ultimement, je pense que c'est bien d'avoir une certaine façon de voir sa vie puis de dire qu'on peut avoir, on peut avoir une part là-dessus, tu sais. On n'est pas obligé d'être constamment trimballé ou par un paquet de monde qui nous disent un paquet d'affaires. Il faut que tu arrives à faire des choix toi-même aussi, tu sais. Et ces choix-là, quand tu es en ville, t'es pas en campagne. Il y a une grande différence là-dedans. J'ai été élevé en campagne. Quand je suis arrivé en ville, j'ai été déboussolé parce que j'ai fait comme, il y a un paquet de monde que je rencontre, que je rencontrerai jamais. Puis après ça, je les connaîtrai jamais non plus. Donc, j'ai pas de tissu social clair, c'est pas évident. Donc, tout ça, tu le retrouves quand tu es en campagne. Tu le retrouves parce que tu revois les mêmes personnes régulièrement, tu es là-dedans. Donc, c'est le survivalisme, pour moi, il est le fun jusqu'à ce que ça soit plus le fun ou que ça devient dangereux pour tout le monde. Parce qu'il y a de quoi qui peut éclater. Ça peut... je parlais avec les policiers du temps 19-2, puis il disait, ça prend 3 jours à peu près. Le chaos social, ça s'installe très rapidement si ça part j'allais dire en couille.
Non, si mais c'est part, vrai, ben, je me souviens de la crise du verglas. Ça a duré dans certains coins assez longtemps. Il n'y a pas eu... C'était pas chaotique, mais il y a un soir, quand tu dis au centre-ville de Montréal, il fait noir. Mm-hmm. C'était un vendredi, si mon souvenir est bon. L'eau potable est menacée parce que tu n'es pas capable de faire fonctionner l'usine de filtration.
Bien sûr.
Des gens qui ne veulent pas sortir de leur maison, qui préfèrent rester là. Les policiers vont les déloger pratiquement. De... Tu sais, ça, c'est une soirée. Fait trois jours comme ça, là.
Mm-hmm. Puis là, mais il y avait quand même une belle solidarité,
aussi,
en fait.
Aussi.
C'est ça qui est intéressant là-dedans. Une solidarité où tu te rends compte que ton voisin, tu l'as, tu l'apprends, tu le connais, tu le vois faire parce que, tu vois, il est pas branchable, il est pas branché, mais moi, j'ai une génératrice, branche-toi sur moi. T'sais. Là, tout d'un coup, il y a une relation qui s'installe. Donc, dans ce sens-là, ça vaut la peine d'avoir, ces connaissances-là. Mais ultimement, c'est quand ça commence, quand il commence à avoir de l'hommerie, là, de l'humanité.
Bon, j'ai dit tantôt que tu étais le mentor de ce groupe-là. Et c'est vrai parce que c'est une autre dimension. Les survivalistes, c'est une chose, là. Mais être le mentor, j'allais dire, c'est comme être le chef d'une secte, finalement. Puis on sent le rapport, là. Les gens qui sont là, dans le film, ont de l'admiration pour le mentor. Le reconnaissent. Il y a des qualités de leader qui amènent ces gens-là à adhérer. Et ça, tu portes bien ça. C'est-à-dire, t'aimes ça, diriger du monde?
En fait, ça prend toujours un chef quelque part.
Ouais.
Si tu peux être l'employé, puis tu peux être le boss. C'est toi qui décides. Mais ultimement, il y aura un rôle. Tu as un rôle à jouer quelque part dans une espèce de communauté, que ça, peu importe laquelle, que ce soit à faire la radio, du cinéma, de la télévision, ou même à travailler sur une terre, ou peu importe. Il y a toujours un rôle à jouer. Ce rôle-là, ben, il t'est dévolu. Tu peux le choisir en plus. Puis si tu es apte à bien le remplir, tant mieux. Mais ce personnage-là, il est intéressant.
On n'ira pas dans le détail, là. Ça déboule quand même assez rapidement. Et disons que ça ne va pas bien, ça, on peut dire ça. Et ça illustre les dangers, coup par coup, de ces aventures-là et de ces expériences de vie. J'ai des questions plus techniques là, pour le film. D'abord, ça a été tourné où?
Ça a été tourné à Sainte-Adèle.
Ah oui?
Oui, à Laurentide.
Grand espace.
Aussi au mont Waro, qui il y a une scène où est-ce que le pont, le fameux pont dans le film, vient du parc régional de Waro. Donc c'est vraiment Lanaudière-Laurentide autour de ces coins-là.
OK. Deuxième question, il y a des moments violents dans le film. Puis je vais revenir à Réal parce qu'à un moment donné, il survit à un paquet d'affaires, on est même surpris, là. comment vous les faites, ces effets spéciaux-là? Je pense à une balle tirée par quelqu'un à distance qui touche au cerveau, l'autre qui tombe dans un piège. Je n'irai pas plus loin, là, mais disons que c'est assez spectaculaire.
Ben merci. C'est beaucoup grâce à Jeff Lachapelle, qui est un coordonnateur de cascade qui œuvre beaucoup à Toronto. Maintenant, bon, c'est un ami, il est venu travailler sur la production. Puis c'est vraiment grâce à lui, avec lui, en fait, qu'on travaille sur comment rendre les effets les plus authentiques. Puis il y a des effets qui sont authentiques. Il y a des explosions qu'on a faites. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait des vraies explosions pour qu'on ressente, pour que les acteurs ressentent ce que ça fait. Il y a des balles tirées. C'est des balles à blanc, bien entendu. Mais donc, pour que l'acteur puisse se mettre le plus possible dans le contexte. Donc, tout est presque vrai. Il y a très peu de choses qui sont pas vraies dans le film. En fait, c'est des effets très, très pratiques, en fait, là.
Nos invités ce matin, Patrice Laliberté, le réalisateur, et Al Bossé, qui joue dans le film Jusqu'au déclin. C'est quelque chose, là, les derniers moments. Avais-tu un cascadeur qui te remplaçait pour des chutes? Est-ce que tu as tout fait ça toi-même?
Non, bien, excusez, je vais prendre la parole pour Réal, parce que je sais qu'il sera jamais capable, il ira pas là, mais Réal a fait un travail incroyable. En termes, c'est lui qui a fait toutes ses cascades. C'est super difficile pour un comédien de faire ses cascades. C'est un gymnaste. Puis Réal, je m'excuse d'avoir pris... Je t'envoie tous les fleurs, mais je sais que tu ne prendras pas les fleurs.
J'en prends une.
Raconte-moi ça. Là.
Ben, en fait, ce qui est intéressant dans ma job en général, c'est que moi, je suis un acteur froid, donc un acteur physique. J'aime en fait la simplicité de l'affaire. Tant qu'à être... Si on peut le faire, fais-les. parce que ça va être plus simple aussi au montage, parce que là, c'est la face du gars, c'est la face du cascadeur. On peut pas prendre la shot parce qu'elle était bien le fun, mais on reconnaît que c'est pas l'acteur. Donc, c'est compliqué. À partir du moment où, sur LOL, par exemple, sur moi, je souhaite faire des cascades. J'aime ça parce que je suis un sportif. J'aime beaucoup cette possibilité-là. Alors, quand on peut me l'offrir et quand les assurances sont d'accord, je suis partant. Puis c'est plus intéressant. Ça reste aussi quelque chose qui fait partie de ma job. Tu sais, c'est du beau faire semblant, mais avec une certaine réalité dedans.
T'sais. Mais des scènes, je pense à des scènes de violence, de bataille mm-hmm. avec une fille, par exemple. Mm-hmm. Comment tu fais pour pas la frapper pour vrai, pour te contrôler? Pour...
Ben, c'est ça qui est le fun. C'est ça qu'il faut apprendre dans ce métier-là. C'est apprendre à pas se faire mal soi. Je parle pas juste de cascade. Là. Non, des fois, je parle d'intériorité puis tout ça. À force de jouer avec son ego, on peut en souffrir aussi. T'sais. C'est le fun de rentrer chez eux le soir en sachant qu'on a fait une journée de tournage et qu'on n'est pas blessé à l'âme ni au corps. Donc, c'est ça qu'il faut protéger. Très rapidement, on s'en parle. Faut se parler de ça. C'est comme les scènes d'unité et tout ça. Il faut que tu en parles. Il faut qu'on puisse en parler. Il faut qu'on puisse la gérer avant de la jouer. Donc, puis il faut être ouvert à ça. Donc, on discute, on s'amuse, on fait comme ça, fais attention à ce bout-là, ça peut être très dangereux. Moi, je sais, je contrôle bien. Il faut juste enlever les affaires à terre parce que là, il y avait des bines à terre ou des bines du riz. Ça glisse. Là, si je glisse, je peux planter le couteau à mauvaise place. Donc, tout ça est structuré, tout
ça
est...
Et tu t'es pas blessé pendant le tournage?
Non.
Et quand même.
Non, on finit par apprendre comment tomber, comme diraient les cascadeurs. Mais il y a toujours une année où ça fait mal. De toute façon. Mais des fois, ce mal-là, il ne dure pas longtemps. C'est pas genre un accident grave. Là.
Le film, dont je le disais, va être disponible sur Netflix et va sortir également en salle un peu avant. Là, c'est comme des nouvelles approches là, sur les sorties de films, un peu la télé, mais d'abord en salle. Comment vous voyez ça, vous, ces multiples sorties?
Ben moi, je suis très content que le film va rapidement se retrouver en plateforme parce que il va être disponible à travers le monde. Puis moi, j'aime beaucoup la salle. Je trouve que c'est la sortie du film, elle est parfaite parce que pour ceux qui veulent l'écouter en salle, ben, il y aura la possibilité à Montréal. Puis pour tout le reste des gens qui vont écouter le film sur la plateforme, ben, il va être disponible. Tu sais. Je pense aux Oscars cette année. Moi, j'ai eu la chance de presque tout écouter parce que les films étaient disponibles sur la plateforme. Puis ça, j'ai pas eu dû à courir au cinéma puis avoir... Ah, là, il est présenté que le jeudi à 19h. Donc,
mais c'est un film, une belle expérience. Moi, je ne l'ai pas vu au cinéma, là, mais je suis convaincu que l'image, les grandeurs de territoire, ça peut être très, très... Le cinéma en salle peut être efficace.
On a très hâte de le voir vendredi.
J'imagine.
Très hâte,
ouais. J'imagine. Est-ce qu'il y a une suite à ce film-là?
Non.
Sûr?
Sûr et certain.
OK, parce que la fin... Là,
oui, peut-être.
Oui, peut-être qu'il y a une suite ou...
Non, il n'y aura pas de suite.
On fait un spin-off avec le skidoo.
Exact.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Réal Bossé, Patrice Laliberté, le film Jusqu'au déclin. Donc, sorti en salle le 13 mars, est disponible sur Netflix le 27. Enfin, la pause 9h41, on revient avec le sujet de Tribune.